Bienvenue à cette cinquième conférence de carême au couvent des Dominicains de Toulouse. Chers amis dans cette salle et chers amis auditeurs de Radio Présence, c'est la dernière de la série. Cette dernière conférence de carême a été voulue dans notre cycle sur la sainteté pour parler des saints de la semaine sainte, les saints de l'Évangile. Quand j'ai fait cette proposition-là à mes frères au couvent, le frère Eric est venu vers moi en me disant « Moi, je suis intéressé par cette dernière conférence à cause du bon larron. » C'est devenu la sainteté par effraction, le larron sur la croix. Merci frère Eric d'avoir, je dirais même pas simplement accepté, mais surtout d'avoir eu cette spontanéité et cet enthousiasme pour nous présenter aujourd'hui cette figure du bon larron. Le frère Eric est actuellement en travail de doctorat. Sa spécialité, c'est la patrologie, les pères de l'Église. Vous savez, ces évêques et ces théologiens des premiers siècles de notre Église, dont les textes, les réflexions, les prédications nous étonnent encore aujourd'hui. Et je crois qu'elles étonnent beaucoup et elles enthousiasment beaucoup le frère Eric. Je sais qu'il aime, il aime être avec eux, et en particulier avec saint Augustin. Mais je n'en dirai pas plus et frère Eric, je te donne la parole en te remerciant encore.
Merci beaucoup frère Philippe. Merci à chacun et chacune de votre présence. Oui, je me suis cette fois-ci emparé, ce n'est pas souvent que je m'empare d'un sujet, mais cette fois-ci je me suis emparé de cette proposition. Pour deux raisons. D'abord parce que, je vous en parlerai, un très beau livre a été écrit sur le bon larron il y a quelques années. Et parce qu'Augustin est un passionné aussi du bon larron. Pour la forme, nous ajusterons, je pense. Aussi a-t-on idée, recevoir un homme comme cela et le loger à côté de soi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Ah mon Dieu, cela fait frémir quand on songe. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez !» dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. Cependant, monseigneur bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jamais évêque n'a mieux porté son nom bienvenu. Jamais arrestation ne fut mieux accueillie. Le juste, souhaite la bienvenue au voleur tiré par trois gendarmes. Cette bienvenue, nous la connaissons, c'est une miséricorde contre toute attente. Le voleur a oublié de voler les chandeliers. Monseigneur, bienvenu Myriel, les offre lors du retour forcé du voleur arrêté. Le voleur, qu'est Jean Valjean, est entré, pour ainsi dire, dans le ciel de la miséricorde que lui ouvrit l'évêque. Pénitent, vous le savez aussi, Jean Valjean va prendre le nom de Monsieur Madeleine. Il est lui aussi, d'une certaine façon, et l'école n'a pas hésité à le canoniser, un bon larron, un saint voleur du paradis. Mais une émotion encore plus profonde envahit notre cœur quand nous nous mettons à l'école de la croix. Là, l'évangéliste Luc, avec une très grande sobriété, nous touche au plus intime. Une sobriété qui ne s'encombre d'aucun détail. Quel était le passé de ce voleur? Nous en savons plus sur Jean Valjean que sur le bon larron de l'Évangile. Quel est son âge ? Quel est son visage ? Quelle est l'intensité de sa voix quand il dit ces fameuses paroles qui nous retiennent ? Une sobriété de l'Évangile qui conduit au-delà, bien au-delà, de tout le pittoresque moralisant d'un roman de mœurs. Cette sobriété s'accompagne d'un sentiment de rapidité. Cinq versets nous font entrer dans le mystère de celui que la tradition a surnommé le bon larron. Cinq versets chez Luc seul. Cinq versets pour tous les évangiles, cinq versets pour l'ensemble de la Bible sur cette figure qui pourtant est l'une des plus belles figures du christianisme. Et elle attire même au-delà du christianisme. Voici le texte dans la traduction liturgique. On est en Luc, au chapitre 23e. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Ces cinq versets, les prédicateurs s'en sont largement emparés. Et parmi eux, il faut sans doute mettre en tête deux textes grecs de la fin du IVe ou du début du Ve, de l'éminent Jean Chrysostome. Les recueils désignent souvent ces textes comme « sermons sur la croix et sur le bon larron ». Ces textes seront presque aussitôt traduits en latin. Et de plus en plus, le bon larron entre, comme par effraction, dans la prédication, en grec, en syriaque, en latin. Le larron vole la meilleure part de l'intensité des grandes prédications du Vendredi Saint. On finira même, bien plus tard, par lui donner un nom propre, celui de Dismas. Vous avez peut-être entendu parler de Saint Dismas. Eh bien, c'est à partir de bribes de ces prédications qu'il nous est permis de scruter le sens spirituel propre à cet anonyme de Saint-Luc. Cet anonyme est quand même le dernier visage d'homme auprès duquel notre Seigneur en croix trouva un vis-à-vis humain. Et je me propose de scruter ce sens à l'écoute de la prédication. De la prédication essentiellement, et non pas des traités. Le bon larron a envahi aussi les traités. Les pères ont essayé de résoudre très attentivement les questions savantes de son hypothétique baptême. Comment le bon larron a-t-il pu entrer au ciel sans baptême ? La question tout aussi difficile du moment de son transfert en paradis, ou encore la question de la gratuité absolue de la grâce dont il bénéficie. Je préfère ici, dans le cadre de conférences de carême, le cheminement plus libre de ces mêmes pères lorsqu'ils sont prédicateurs. Cheminement linéaire, je suivrai le texte de Saint-Luc, mot à mot d'une certaine façon. Le titre choisi et celui de la sainteté par effraction. C'est un titre à la fois antique et moderne. Moderne d'abord, parce qu'on le rencontre en 1912 dans le Mystère des Saints Innocents de Charles Péguy, où le poète oppose le secret d'une âme que Dieu prend avec douceur, Dieu qui entre dans une âme avec douceur, au secret de Dieu que l'homme doit prendre comme par effraction. Les cœurs, dit le poète, les cœurs des pécheurs ne se prennent point par effraction, ils ne sont pas assez purs, le seul royaume du ciel se prend par effraction. Le seul royaume du ciel se prend par effraction. Antique. Titre antique parce qu'on rencontre l'expression littérale « effraction » chez deux auteurs de langue latine, deux auteurs de cette époque charnière du 4e-5e siècle, Jérôme, l'exégète, et Pierre Chrysologue, qui fut évêque de Ravenne, la lumineuse Ravenne que vous connaissez. L'un et l'autre, en prédication, parlent d'une entrée en paradis par effraction. Ils utilisent le même mot latin, effringere, qui signifie enlever en brisant, et de manière spécifique, ouvrir une porte en la détruisant. Le trésor de la langue française définit l'effraction, dans la continuité, comme le fait de briser une clôture pour entrer par violence, comme on force une serrure pour entrer dans un lieu interdit, ou comme on peut forcer le tiroir d'une commode, un tiroir qui cache un trésor. Pierre Chrysologue, l'évêque de Ravenne, est le seul à rapporter directement au larron cette ouverture violente du paradis. Écoutons-le, cela nous permettra sans plus tarder d'entrer, je crois, dans un premier sens théologique de ce mystère du bon larron. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Faisons pénitence, frères et sœurs, pour que nous ne redoutions pas l'instant critique où pour nous le temps finira. L'auteur du temps ne saurait voir sa miséricorde raccourcie par le temps. Le larron de l'Évangile prouve cela. Lui qui, sur la croix et à l'instant de sa mort, déroba son pardon, s'engouffra dans la vie, entra par effraction dans le paradis, s'introduisit dans le royaume. Le rythme, vous l'entendez, dit parfaitement la rapidité et la violence de cette entrée du bon larron dans le royaume. Mais il y a encore plus beau, me semble-t-il, dans ce contraste entre le maître du temps, Dieu créateur du temps, et ce mystère du temps qui s'effiloche jusqu'au dernier instant où toute une vie peut encore se convertir et s'ouvrir au mystère de Dieu. En un instant, toute la miséricorde de Dieu, une miséricorde plus débordante encore que celle de l'offre des chandeliers, nous est possible. Comment cette miséricorde nous est-elle donnée? Là est le tout premier enseignement, l'enseignement, il faut le dire, majoritaire de la prédication sur le bon larron. Le tout premier enseignement de la figure du larron, c'est l'illustration de la repentance et de la confession. La confession telle qu'elle s'exprime dans la parole que le larron adresse d'abord, en tout premier, à celui qui, alors qu'il subit le même sort, la croix, insulte le Christ. Pour nous, répartit le bon larron, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. mais lui, il n'a rien fait de mal. Augustin, évêque d'Hippone, exprime cette confession en termes crus. Par une telle confession, voilà qu'il a fait sortir le pu hors de soi et qu'il est dès lors devenu apte à recevoir la nourriture du Seigneur. Il a rejeté son iniquité, il l'a accusé, il en est vide à présent. Là, sur la croix, un larron, mais aussi à côté, le Seigneur. Ils sont crucifiés. Ils ont été pour le monde un objet de haine. Mais non gratuitement pour le larron. Le Christ, lui, a été un objet de haine gratuitement. C'est cette justice absolue du Christ, le fait qu'il a été objet de haine absolument gratuite, lui qui n'a commis aucun mal, que confesse le larron, alors que lui, il se reconnaît coupable et il reconnaît que c'est juste qu'il soit là où il est. La confession de son péché, comme toute confession chrétienne, est en même temps confession de la gloire de Dieu, car il n'y a que Dieu seul qui soit absolument juste. Ainsi, nous sommes entrés dans ce que nous pouvons appeler la personnalité spirituelle du bon larron. Saint Jean en parlerait en disant que ce bon larron fait la vérité. Il ajuste sa pensée, son cœur, ainsi que ses mots, il les ajuste à la réalité. Il ne se prend pas pour autre chose. Il se reconnaît coupable. Il ne joue plus son personnage de larron, comme l'autre, à côté, le joue jusqu'au bout. Un larron, un voleur, c'est un dur qui, jusqu'au bout, insulte et choisit la violence. Non, de même que le fils prodigue, il commence sa conversion en reconnaissant humblement la réalité. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. L'aveu, dans le sacrement de confession, emprunte le même chemin. Dire humblement, sans style, ce n'est pas le moment des périodes, la réalité du péché. Il s'agit là d'être historien avant d'être poète dramatique. Il s'agit de dire humblement le péché que j'ai commis. Faisant suite à cette confession, le texte biblique que lit Augustin et d'autres versions latines de l'Évangile selon saint Luc présentent, par rapport au texte actuellement édité, une petite variante, un ajout. Entre « mais il n'a rien fait de mal » et la demande du larron « souviens-toi de moi », la version que lisent beaucoup de latins contient non pas la simple introduction « et il disait », mais « et se tournant vers lui, il dit ». Se tournant vers lui, c'est-à-dire « conversus ad eum », le bon larron, conversus, se tournant vers lui, vers Jésus. Le larron, à présent, se tourne vers le Christ, il s'est converti et prononce cette parole, « Jésus, souviens-toi de moi ». Cette dernière parole du larron est en somme tout ce que nous connaissons de lui. Cette parole, nos frères grecs, par exemple, la prononcent avant de communier. Elle est entrée dans la liturgie. Nous l'entendons aussi en liturgie avec la, la reprise du verbe « souviens-toi de ». Souvent, vous avez des prières qui commencent par « souviens-toi de ». Parole qui, elle aussi, comme la première où il confesse son état, est d'une très grande sobriété. On pourrait même parler d'une retenue, d'une pudeur. Le larron, vous le notez, n'utilise pas le mot de salut. Il ne dit pas « sauve-moi ». Il n'implore pas. Il ne supplie pas. Le verbe qui introduit cette parole est le simple « dire » ou, se retournant, « il dit ». Mais en tout cas, nous n'avons pas le « il s'écria » que la tradition postérieure va souvent ajouter dans nos liturgies. Le larron s'écria. Non, le texte évangélique est plus sobre. Il dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il choisit un mot neutre. Se souvenir de quelqu'un. Se souvenir de quelqu'un peut se prendre à la fois en bien ou en mal. Le larron ne précise pas. Celui qui vous demande de vous souvenir de lui n'ose pas, ici, décider de la manière dont vous vous souviendrez de lui. Avec tout ce que j'ai commis, pense peut-être le larron, Jésus le juste, l'agneau sans tache, comment pourra-t-il se souvenir de moi ? Je désire son pardon, mais je n'exprime que mon désir d'être relié à lui, par le lien infime d'une mémoire, d'un souvenir. Oui, je désire d'être sauvé et d'entrer dans la vie éternelle, comme tout homme désire le bonheur, mais il ne le dit pas. La seule chose qu'il ose dire, souviens-toi de moi. Qu'il y ait un lien entre nous, un lien si infime qu'est le souvenir d'une personne que l'on a rencontrée à un moment terrible, ce moment de la croix. Seul cela m'importe, qu'il y ait ce lien entre lui et moi, comme ici, un jour sur terre, nous avons été liés par la même condamnation, alors que nous sommes de deux bords complètement différents, puisque lui est sur la croix infiniment juste, et moi je suis sur une croix infiniment pécheur. L'évangéliste Luc aime ces paroles qui disent moins, infiniment moins que ce que la réalité va leur accorder. Je suis la servante du Seigneur, dit celle qui est en vérité la mère de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, elle est la mère de Dieu. Reste avec nous, diront à un inconnu les pèlerins d'Emmaüs, ceux avec lesquels Jésus, par la fraction du pain, va rester avec eux jusqu'à la fin des temps, puisqu'il reste encore avec nous depuis Emmaüs, chaque jour de l'église où nous vivons de l'Eucharistie. Souviens-toi de moi, dit le larron. Jésus répond en assurant que ce n'est pas le lien ténu du souvenir qui les reliera, mais qu'il sera avec lui au paradis. Contraste infini entre ce fil si mince du souvenir et Jésus qui dit « Avec moi, tu seras. Avec moi, tu seras. » Souviens-toi de moi quand tu viendras à ce futur qui humblement accepte son sort et qui accepte encore de souffrir le temps qu'il faudra encore souffrir, comme s'il prévoyait l'enseignement sur le purgatoire, Jésus répond par « aujourd'hui ». Par l'aujourd'hui d'un paradis, à portée de main, ou plus exactement à portée de cette voix dont Augustin nous laisse le brillant éloge. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Quelle foi ! À cette foi, je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter. Ils ont titubé, eux qui avaient vu le Christ ressuscité des morts. Les disciples. lui a cru en celui qu'il voyait pendu au bois à côté de lui. Au moment même où ils ont chancelé, lui a cru. Quel beau fruit le Christ a cueilli sur ce bois sec. Écoutons ce que lui a répondu le Seigneur. « Oui, je te l'assure, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu établis un délai, mais je te reconnais pour mien. » Tandis que le bandit passait de son crime au juge, du juge à la croix, pouvait-il s'attendre de passer de la croix au paradis? Nos prédicateurs, Augustin est un exemple, ont beaucoup développé ce qu'ils ont appelé dès lors les mérites du larron. Car le larron fut, disent-ils, victorieux là où précisément les plus proches, les plus intimes, les apôtres, ont été vaincus par la croix, par la folie de la croix. Alors qu'il fait froid dans le cœur de Pierre, aime à dire Ambroise, quand il commente l'évangile de Luc. Alors qu'il fait froid dans le cœur de Pierre, lorsqu'il renie auprès d'un feu où il essaie en vain de se chauffer, la foi, comme une chaleur bienfaisante, envahit le cœur du bandit. Nombreux sont ceux qui ont cherché la cause de cette foi vive. D'où vient-elle ? Force leur a été de finir toujours par les versets de Paul. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ? Seul peut-être un regard où le visage du Christ fut une réponse satisfaisante à de telles questions, comme un écho du visage du Christ qui convertit Pierre au chant du coq. Il en va presque ainsi dans une homélie anonyme du 5e siècle, dont je vous lis un extrait. Quand le bon larron a cru, qu'a-t-il dit ? « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras arrivé dans ton royaume. Et quoi ? Tu vois un crucifié et tu le proclames roi ? Tu as sous les yeux le spectacle d'un homme attaché à une croix et tes pensées se portent sur le royaume des cieux ? Est-ce que sans faire trêve à ton métier de brigand, tu as pris le temps de lire les Écritures ? Est-ce que tout en commettant des homicides, tu as eu le temps d'écouter les prophètes ? Tous les jours, tu étais occupé à verser le sang et tu as eu le loisir de prêter l'oreille à la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui t'a appris à devenir philosophe ? Est-ce la croix, devenue l'instrument de ton supplice, qui te fait reconnaître et proclamer le triomphe du Christ ? Bien qu'ils sachent la loi et qu'ils aient lu les prophètes, les Juifs crucifient. Et toi qui ne connais rien, ni à la loi ni aux prophètes, tu vois le Christ condamné avec toi et tu le proclames Dieu. Tu le vois crucifié et tu l'adores. Qui est-ce qui t'a appris les oracles relatifs à sa personne ? La loi, me répond-il, ne m'a rien appris. Les prophètes ne m'ont rien annoncé. Mais le Seigneur qui était devant moi, m'a regardé et son regard a percé jusqu'au fond de mon cœur. C'est presque une bonne réponse, parce qu'en fait, la coupe ici est fautive. Le prédicateur du début du 5e siècle continue. Le Seigneur qui était devant moi m'a regardé et son regard a percé jusqu'au fond de mon cœur. Oui, sans doute, je l'ai vu crucifié, mais aussi j'ai senti la terre trembler. Vous voyez, le prédicateur reprend les événements surnaturels qui accompagnent la crucifixion du Christ. Et donc là, vous avez une explication plus rationnelle pour essayer encore de comprendre ce mystère de la conversion du larron. L'idée de vol et de voleur attire l'attention sur un trésor. J'ai retenu le mot d'effraction, une sainteté par effraction, mais dans ces mêmes années, on parlera du bon larron comme du voleur de paradis. Mais dans ce dialogue dans lequel nous sommes entrés, le dialogue de Luc, dialogue entre ciel et terre, il s'agit à la lettre moins d'un vol que d'une effraction. Je veux dire, selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, une ouverture fracassante, violente, et l'introduction en un lieu jusque-là fermé. Le paradis, en effet, que promet le Christ au larron n'est pas une chose dont le larron pourrait se saisir entre ses mains. Le paradis dont parle le Christ n'est pas quelque chose que le larron puisse embrasser, de même qu'en vérité, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais vraiment comprendre ce que nous entendons par paradis. Et toutefois, il s'agit d'un lieu. Un lieu où l'on est invité, où tout notre être, en pensée, pour précéder l'action elle-même, doit se rendre. Il ne s'agit pas ici de secouer une nouvelle fois la question spéculative de savoir quelle est exactement la réalité que Jésus désigne en employant ce terme rare dans le Nouveau Testament de paradis. Les pères, les médiévaux s'y sont abondamment livrés. S'agit-il du même paradis que celui des premiers chapitres de la Genèse ou non ? Il me semble que nous avons à gagner ensemble à méditer simplement sur le fait qu'il s'agit d'un lieu. Nous sommes en itinérance, dans l'itinéraire, le grand itinéraire de la vie chrétienne, qui se cristallise chaque année dans cette époque du carême. Avancer, c'est aller d'un lieu à un autre, où l'on est attendu, où l'on sait qu'on y sera accueilli. Saint Augustin, lorsqu'il contemple le Christ mort sur la croix, l'eau et le sang qui coulent de ce côté, remarque que le texte parle précisément d'une ouverture contre l'usage courant. Il ne s'agit pas d'abord d'une blessure. Les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance, ici c'est la traduction liturgique, lui perça le côté. La Vulgate et toutes les versions latines ont aperuit, lui ouvrit le côté. Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste, dit Augustin, se sert d'une expression choisie. Il ne dit pas qu'on a frappé ou blessé le côté du Sauveur, mais on l'a ouvert. Effectivement, la porte de la vie devait s'ouvrir à l'endroit où ont pris naissance les sacrements de l'Église, sans lesquels il est impossible d'arriver à la vie qui est la seule véritable. Ce sang a été répandu pour la rémission des péchés. Cette eau est un salutaire liquide, car elle nous sert de bain et de breuvage. Cette ouverture qui ouvre à la vie véritable, Augustin nous rappelle qu'elle a été annoncée à la lettre dans la Genèse. À Noé, en Genèse 6, 16, il est demandé d'ouvrir sur le côté. C'est le même terme. L'arche. Pour que les animaux puissent y entrer, figure de l'Église. Pour qu'ils puissent être sauvegardés du déluge de ce monde. La croix est le lieu d'une ouverture qui permet le passage d'un lieu à un autre, ou si vous préférez, d'un état à un autre, mais restons encore un moment avec le lieu. Car le lieu est si important dans la tradition chrétienne que nos pères n'ont pas cherché d'autres mots pour le désigner que celui qui désigne le rassemblement de la communauté, l'acte liturgique de la communion. Le lieu où nous sommes, les uns avec les autres, pour prier et offrir le sacrifice de louange, ce lieu concret de pierre, de marbre ou de béton, est, dans la tradition chrétienne, magnifiquement honoré, alors qu'il est un lieu brut et périssable. Malheureusement, nous voyons, nous pouvons voir des ruines d'églises. Eh bien, ce lieu est honoré du mot même qui désigne la réalité spirituelle de ces hommes et femmes convoqués, appelés à faire église. Nous n'avons pas choisi d'autres mots. Ici, le charnel, le terrestre, reçoit un nom spirituel, un nom céleste, puisqu'il n'y a pas d'église sans Dieu. Notre Père qui est aux cieux appelle, invite et tisse ses liens d'amour entre lui et nous, et entre nous et nous. Eh bien, cette réalité spirituelle d'être appelé à vivre cette communion, ce mot-là est celui aussi avec lequel nous nommons le bâtiment, l'édifice, en pierre, en brique, qu'est l'Église. Voyez l'importance du lieu. Jésus dit au larron, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Un nouveau lieu est ouvert au larron. Il est ouvert avec fracas. Et si vous suivez la lecture de ces pères dont je vous parlais, de ces prédicateurs, ils aiment reprendre l'image du fracas, de l'ouverture de porte d'une citadelle. Il y a effraction. Mais surtout, Jésus lui-même, dans ses mots, au-delà des images, laisse entrevoir quelque chose du mystère de ce lieu ouvert, le paradis. Jésus ne nous dit rien apparemment sur cette destination. Et pourtant, dans sa phrase, il nous en dit l'essentiel. Le larron y sera avec lui. De même que l'Église, c'est d'être avec le Seigneur qui m'appelle, avec le Seigneur que je prie et que je loue, le paradis, c'est d'être, dit Jésus, avec Jésus. Ici, ce n'est plus le nom de lieu qui est honoré du nom de la communion, mais le nom de la communion, être avec Jésus, qui reçoit un nom déjà vieux de toute une longue histoire, le vieux mot de paradis. C'est un vieux mot, paradis, qui n'est même pas spécifiquement chrétien, ni même spécifiquement biblique. Eh bien, le Christ lui donne un sens propre, un sens personnel. S'il continue, oui, parce qu'il continue de l'être, s'il continue d'être ce jardin couvert de fleurs et bruyant d'eau vive, il est, depuis cette réponse faite au larron, il est d'abord le lieu où l'on est avec Jésus. Le larron y est le premier reçu, mais il n'est pas le seul. Le jardin du paradis, le bienheureux Angelico nous le donne à voir, il est une danse. Il n'est pas autre chose que l'Église. mais il est l'Église qui danse, parce qu'elle est avec son Seigneur, aussi proche qu'aucune ride ne l'en sépare, ni souillure n'en ténèbre les yeux, des yeux qui désormais, réellement, voient Dieu. Voir Dieu, depuis le Moyen-Âge, le fidèle en vie, lorsqu'il se rend à l'Église, où l'on expose le Saint-Sacrement. Un médiéval, un homme du Moyen-Âge, dira « Je vais voir Dieu » lorsqu'il va adorer le Saint-Sacrement. Parmi eux, Thomas a été l'un des plus grands poètes de ce mystère donné à l'homme. Mystère du double voile, où dans l'ostensoire, la Sainte Hostie est déposée, cachant à la fois la divinité, mais aussi et même l'humanité de Jésus-Christ. C'est dans cette contemplation que le saint théologien, celui qu'on peut surnommer l'angélique, c'est dans cette contemplation qu'il ne cherche pas d'autres mots que ceux du larron en croix. On peut écouter Thomas prier. Adorote devote, latens deitas, je t'adore avec dévotion, toi, Dieu qui te cache. Sur la croix, seule ta divinité se cachait. Mais ici, lorsque je suis devant l'ostensoir avec le Saint-Sacrement exposé, ici se cache en même temps ton humanité. Mais croyant l'une et l'autre, confessant ton humanité et ta divinité, je demande ce que demanda le larron pénitent. Voici, grâce aux paroles du docteur, que l'adoration eucharistique est comme le mémorial, le souvenir de la conversion du larron. Et vous savez qu'en terre chrétienne, tout souvenir est une occasion de revivre en réalité. La grande dignité, nous l'avons vu, du larron est de n'avoir pas été empêché par le voile de l'humanité et de l'humanité crucifiée. La grande dignité du fidèle est de reprendre la demande du larron, non plus, parce que ce temps est définitivement passé, en face de l'homme Jésus-Christ, mais en face du mystère eucharistique. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. Puis, se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Pardonnez-moi ainsi de passer des vers de saint Thomas d'Aquin à la prose d'Hugo, mais il y a dans cette petite phrase une réalité importante. Il y a eu effraction, il y a eu un premier, il y a eu un larron qui est entré dans ce paradis, mais depuis, la porte n'a pas été fermée à clé. Le Christ en croix a pour tous les siècles ouvert le ciel. Sa croix, en disent les mêmes prédicateurs, en fut la clé. Mais elle en est en même temps l'échelle qui est conduite par les sacrements, par nos associations aux souffrances du Christ dans notre vie de tous les jours. Luc nous offre au sommet de son évangile comme un triptyque. Le larron qui se convertit voyant Jésus en croix, d'un côté, un petit peu avant, vous avez Pierre qui se convertit, et là c'est propre à Luc, il voit le visage de Jésus, il prend conscience de son péché. Et après la crucifixion, Vous aurez ce visage de Jésus qui sera reconnu dans la fraction du pain. Ce triptyque nous permet de motiver sans cesse notre recherche de ce visage-là, le seul qui puisse nous donner ce goût du ciel, ce goût d'être nous aussi voleurs de paradis, d'y entrer peut-être pas par effraction, puisque la porte n'est pas fermée comme elle fut fermée avant la mort et la résurrection du Christ. Mais nous avons un petit coup de coude à donner. Cela s'appelle la grâce. Et il s'agit pour nous sans cesse de l'implorer. Nous l'implorerons ensemble lors de la vigile de Pâques. Et je vous remercie pour votre attention.